Louis Clavis, merci pour ce beau concert. Vous êtes l'un des plus fameux représentants du jazz français. Vous êtes un bâtisseur d'expérience et d'expérimentation, de collaboration musicale avec notamment ce quartet et cet album Silk and Salt Memories, qui est une invitation au voyage.
Alors c'est Silk and Salt Melodies, pas Memories.
Oh my God.
Ce qui pourrait être joli aussi.
Silk and Salt Melodies.
Parce que j'ai voulu dans ce projet insister sur la mélodie. Moi, je suis depuis toujours un mélodiste. J'ai toujours aimé composer des airs, des chansons, Et donc, sur ce projet-là, j'ai vraiment voulu insister sur cet aspect de la musique, ce qu'on appelle la mélodie. Et j'ai fait des compositions où parfois il y a trois ou quatre mélodies différentes à l'intérieur de la même composition. Et c'est quelque chose qui pour moi était important dans ce projet, était important de faire. Mais c'est vrai que ça aurait pu aussi s'appeler Memories, mais ça aurait été une autre histoire en fait.
Ces musiciens avec lesquels vous jouez, Kevan Chemirani,
Gilles Coronado à la guitare et Benjamin Mousset au piano,
ont des univers aussi très particuliers. Comment vous les avez inclus dans ce projet ?
C'est des musiciens que je connais déjà depuis longtemps. J'avais vraiment envie de les réunir, tous les trois avec moi, qu'on soit tous les quatre ensemble dans un projet. Et donc après, quand je compose, c'est vraiment pour les musiciens. Voilà, donc j'ai vraiment composé en pensant à ces trois autres musiciens, notamment au fait qu'il y ait de la percussion de Kevan Chemirani, qui est percussionniste de tradition iranienne. Et s'il n'y avait pas eu ces trois musiciens et cette percussion, j'aurais composé une autre musique. Donc vraiment la musique, l'inspiration de la musique, pour moi, c'est toujours les musiciens avec lesquels je décide de faire un projet.
C'est un peu comme quand on réalise un film, en fait.
Oui, c'est-à-dire c'est comme si pour un réalisateur de film, le sujet principal était les acteurs. Voilà, pour moi, c'est le sujet principal d'où je vais sortir la musique, c'est les musiciens avec lesquels je travaille.
Commencé votre carrière avec la clarinette. Comment vous êtes passé clarinette basse, saxophone?
J'ai commencé à la clarinette, puis après à l'adolescence j'ai commencé à jouer du saxophone, et dans les années 70 j'ai eu Comme ça, j'ai entendu parler de la clarinette basse sans vraiment savoir ce que c'était. J'ai juste imaginé qu'une clarinette, un octave en dessous, ça devait être un son assez étonnant. Et donc, j'ai décidé d'acheter une clarinette basse. C'était, je crois, en 72 ou 73. Et j'ai découvert l'instrument quand je l'ai acheté, en fait. Et c'est quelque chose, c'est un instrument qui correspondait complètement à ma personnalité, à ce dont j'avais envie. Ça me permettait de jouer des musiques de traverse, des musiques à cheval sur les frontières. Et donc, c'est devenu mon instrument principal.
Pourtant, c'est pas un instrument traditionnel ?
Non, puis à l'époque, c'était assez peu courant, mais maintenant, c'est devenu un instrument assez courant. Qu'on rencontre, il y a beaucoup de musiciens qui jouent la clarinette basse, mais c'est vrai que dans les années 70, c'était assez exceptionnel, mais en même temps, ça m'a permis justement de me démarquer un peu et de faire une musique un peu différente.
Vendredi soir, il y avait David Murray ici, que j'ai pu interviewer, et qui a parlé justement d'une fois où il avait collaboré avec vous.
Oui, c'est vrai, on a joué ensemble, j'ai beaucoup joué avec Aki Takase, la pianiste avec laquelle il a joué, et je continue à jouer avec elle, on joue très souvent ensemble, et David Murray, je le connais depuis très longtemps, on s'est croisés très longtemps dans les festivals, et on a eu l'occasion de jouer en duo ensemble.
Duo de clarinette basse.
Oui.
À vos débuts, dans les premières formations que vous avez jouées, ça s'est fait au sein de l'ARFI de Lyon, l'association à la recherche d'un folklore imaginaire. Oui. J'ai l'impression que la plupart de vos explorations par la suite ont été des voyages à la recherche de ce folklore.
Non, c'est-à-dire que... Enfin, moi, je suis un des créateurs de l'ARFI dans les années 70. L'idée du folklore imaginaire, c'était simplement l'idée qu'un groupe, au lieu d'aller rechercher des racines hypothétiques différentes pour chacun, pouvait recomposer un folklore commun, c'est un langage commun à un groupe, mais ça n'avait pas de rapport direct avec un folklore musical quelconque. Hein, ce qu'on appelait folklore imaginaire, c'était le fait de créer un langage ou une pensée commune. Donc ça peut être même en dehors de la musique. Voilà. Mais après, je ne me suis jamais préoccupé des folklores, simplement, comme je suis quelqu'un d'hybride, mais que mon instrument, la clarinette basse, est hybride. C'est un instrument avec lequel on peut jouer des personnages, on peut être chanteur, violoncelliste, saxophoniste. C'est un instrument qui permet d'être plusieurs personnes différentes, de jouer des personnages. Donc je fais des musiques qui sont des choses qui en fait sont complètement hybrides, bâtardes totalement, mais qui sont... ma façon de jouer à moi, mes jouets, quoi, mon univers. Et c'est pas du tout. C'est rarement inspiré de réel folklore. C'est plutôt comme des jeux d'enfants. Les enfants s'inventent des histoires, s'inventent des personnages. Et moi, quand je joue, quand je compose, quand je fais des projets, je m'invente comme ça des jeux d'enfants.
Et ce folklore imaginaire, c'est pas un petit peu à l'image du jazz, une musique qui absorbe les racines.
Oui, c'est à la fois quelque chose de très ancré, profond, et puis de très volatile, de très éponge, de très qui absorbe très vite les choses. C'est un mélange de tout ça. Mais vous savez, ça se retrouve chez tout compositeur. C'est-à-dire que si on parle de la musique classique et qu'on voit Bartok, Stravinsky, ou Beethoven, ils ont toujours été comme ça aussi des éponges de leur temps. Hein. Donc on donne comme propriété au jazz, cette histoire-là, mais c'est une propriété qui est de tous les arts.
Vous avez beaucoup travaillé pour le théâtre et aussi pour l'image. Oui. Est-ce que vous travaillez encore pour des musiques de films,
de
scénographie?
Oui, j'aime beaucoup travailler pour le documentaire. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et donc, je continue à faire des musiques avec des documentaristes. Plus que des musiques pour le documentaire, c'est avec les réalisateurs eux-mêmes que je fais des musiques pour eux. Je fais plus une musique pour le réalisateur que pour le film. Voilà, j'ai envie de faire plaisir au réalisateur, donc je lui fais une musique qu'il aime. Et c'est ce qui me plaît dans le documentaire.
Et je crois que vous êtes aussi photographe.
Oui.
Rapport à l'image.
Je ne suis pas photographe, mais je fais de la photo.
Ah,
voilà.
Ouais.
Être photographe, ça voudrait dire s'investir d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus longue, beaucoup plus quotidienne. Je sais ce que c'est, ce que sont les photographes. Donc. Mais je fais de la photo, oui, d'une façon, disons, assez sérieuse. Et je fais des expos. Et là, j'ai une expo en ce moment qui tourne dans pas mal d'endroits, qui va être exposée à partir de fin septembre au Carré d'Art à Nîmes. Voilà, c'est une expo sur les musiciens.
J'allais vous demander quel genre d'image faites-vous.
Cette expo, c'est une expo sur les musiciens, uniquement les musiciens avec lesquels je travaille. Et c'est pas les musiciens sur scène, c'est pas les musiciens dans leur vie privée, c'est ces moments entre deux. Où avant le travail, après le travail, il y a des moments où je les chope seul dans un cadre et j'essaie de les prendre comme je les imagine. J'essaie de montrer dans la photo ce que j'aime dans ce qu'ils sont, quoi.
Et quels sont les photographes qui vous
inspirent ? Des milliers de photographes. Mais c'est vrai que je suis très, très sensible à toute la photographie noir et blanc. Et ça peut être Leonard Fried, ça peut être Giacomelli, et puis toute l'équipe de Magnum, les gens comme Le Kerec, ça peut être Salgado. Disons que je suis assez proche de tout ce qui est noir et blanc. Voilà. Robert Franck aussi, tous ces gens-là, quoi.
Est-ce qu'il y aurait une image qui pourrait résumer, selon vous, dans les photos que vous connaissez, les images que vous avez en tête, la musique du jazz ?
Non. Non, parce que ça serait... toutes les photos peuvent parler du jazz. Au moins, toutes les photos qui photographient la vie parlent du jazz.
Ce qui est important, c'est de saisir l'instant.
L'instant et puis la vie, quoi. De près, de loin, décisif ou pas, finalement, c'est, peu importe. Mais oui, peut-être qu'une photo vraiment de studio, des fois très léchée, et très, peut-être ne représente pas tout à fait le jazz, mais la photo de n'importe qui, photographiant n'importe quoi, du moment qu'il aime ce qu'il photographie, ça représente le jazz. Photographier votre enfant en train de jouer, c'est le jazz, hein, pas plus.
Merci Louise Cavis.
Voilà.